9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
L'histoire d'un fils qui veut laver l'honneur de son père. Non, ce n'est pas le Cid, cette histoire se passe dans la France de Louis XV et de Louis XVI. Trophime Gérard de Lally-Tollendal, disons Lally-fils, va consacrer une partie de sa vie à défendre la mémoire de Thomas Arthur de Lally-Tollendal, disons Lally-père. Un père qu'il n'a d'ailleurs quasiment pas connu. Et dans cette quête désespérée, il se tourne vers l'un des hommes les plus célèbres de son temps, un défenseur ardent de la veuve et de l'orphelin, un infatigable pourfendeur du fanatisme qu'il appelle l'infâme et de la barbarie, le grand Voltaire. Alors d'abord, l'histoire du père. Notre Lally-père était né en 1702 dans le Dauphiné, à Romans, vous savez, au pays des ravioles. Sa mère était de moyenne noblesse. Elle avait épousé, après la mort d'un premier mari, un noble irlandais, militaire de carrière, et c'est à lui qu'elle va donner l'enfant qui nous intéresse. Cet Irlandais, fervent catholique comme il se doit, avait quitté son pays au moment où Guillaume d'Orange, vous savez, le leader protestant, était monté sur le trône d'Angleterre. Histoire douloureuse que celle de ce père exilé, histoire qui va marquer l'imaginaire du petit Lally, puisque dès son jeune âge, il est élevé dans le culte des armes. On n'hésite pas à l'entraîner au plus près de l'action. Son père l'emmène camper avec son propre régiment, lui confie même des missions. Il veut lui faire connaître le frisson de la guerre. Et il ne faut pas s'étonner que, adolescent, Lally se tourne donc naturellement vers l'armée. Il va intégrer le régiment irlandais d'infanterie de Dillon, qui est au service du roi de France, ce qui n'empêche pas de rester très attaché à l'Irlande, la terre de son père et de ses ancêtres. Il nourrit une véritable aversion pour les Anglais. Au fond, il poursuit le vieux rêve de sa famille, voir un catholique retrouver la couronne d'Angleterre. Alors il va fomenter des plans, il va imaginer des batailles, il se rend même outre-Manche pour jauger l'ennemi. Et voilà que peu à peu, une idée germe dans son esprit. Il se dit que la France et la Russie pourraient s'unir pour affronter la dynastie protestante et remettre un catholique sur le trône d'Angleterre. Et cette idée va devenir peu à peu une obsession. Il est ambitieux, Lally, avec déjà un petit côté tête brûlée, il faut bien le dire, et sans hésiter, il va demander au principal ministre du jeune roi Louis XV, c'était le cardinal de Fleury à l'époque, il demande à Fleury l'autorisation d'aller nouer des contacts à Saint-Pétersbourg. Le cardinal n'y croit pas beaucoup entre nous, mais il le laisse partir, il ne se mouille pas dans cette affaire. Lally est plein d'énergie, son aventure est extraordinaire, mais disons-le, elle va tourner au fiasco. C'est une escapade bien vite oubliée que celle de Lally en Russie. Peu importe, de nouvelles opportunités de tailler des croupières aux Anglais ne vont pas tarder à se présenter. La guerre de succession d'Autriche fait rage et elle oppose entre autres la France et ses alliés à l'Autriche, à la Russie et bien sûr à la Grande-Bretagne. Vous imaginez si Lally est exalté, les combats pour lui prennent une dimension quasi familiale. Son ardeur ne passe pas inaperçue et lors de la plus célèbre de toutes les batailles, en 1745, la bataille de Fontenoy, il se montre ingénieux, il déploie une intelligence tactique assez extraordinaire et qu'il fait remarquer en haut lieu. Les combats vont finir par se solder par une victoire extraordinaire pour la France, mais c'est aussi une victoire pour Lally, parce que dans cette affaire, il s'est fait un nom. Dans un ouvrage qui s'appelle « Les boucs émissaires de l'histoire », Vincent Mottet nous dit « Le maréchal de Saxe loue l'esprit d'initiative de Lally et sa bravoure. On peut dormir tranquille, Lally est à l'armée. » Cette confiance lui vaut de monter en grade. Maréchal de camp, puis lieutenant général en 1756. Au début de l'année suivante, il est même fait Grand Croix de Saint-Louis, l'une des plus hautes distinctions qu'on puisse trouver dans le royaume. S'il avait rendu l'âme à 55 ans, nous dit Vincent Mottet, Lally-Tollendal serait parti en pleine gloire. Une gloire sans tache, mais pour son plus grand malheur et celui de la France, Versailles lui confie une nouvelle mission sous d'autres latitudes. Et oui, au printemps 1758, Lally, qui va faire une traversée très difficile, arrive à la tête de quelque 3500 hommes en vue des rives, en vue des côtes indiennes. On imagine sa fierté, son émotion. Le voici, commissaire général de la Compagnie des Indes, gouverneur de tous les établissements français des Indes. Depuis la terre, on rend hommage à ses navires, on tire quelques coups de canon. Un boulet vient finalement heurter le vaisseau sur lequel il se trouve. C'est peut-être accidentel, mais on pourrait déjà dire que c'est un mauvais présage. La situation qui attend l'Ali en Inde est d'une grande complexité. On est en pleine guerre de 7 ans. Aux quatre coins du monde, la France et le Royaume-Uni s'affrontent violemment, c'est à qui va prendre la domination mondiale, la France ou l'Angleterre? L'Angleterre ou la France? On attend de l'Ali qu'il veille à la défense du commerce français et qu'il débarrasse l'Inde de l'ennemi anglais. C'est une mission sur mesure pour lui. Alors, on peut dire qu'au début, il réussit plutôt. Il va prendre Koudalore, le fort Saint-David, qui était jusqu'alors un des bastions britanniques. Et seulement, il a un tempérament fougueux, l'Ali, vous l'avez compris, et tout ça l'entraîne sur une pente dangereuse. Il se montre méprisant, violent même envers les Indiens. Et puis, il a une espèce de don pour se faire des ennemis dans son propre camp. Edmond Ziemowski, que je cite régulièrement pour son ouvrage sur la guerre de 7 ans, nous dit « Quelques mois après l'arrivée de l'Ali à Pondichéry, les récriminations ont commencé. Un officier témoigne « Monsieur de l'Ali se plaint de tout le monde et tout le monde se plaint de lui. » À mesure que les mois avancent et qu'augmente le nombre de ses ennemis, le commandant en chef se retrouve dans une position intenable. Ses décisions suscitent au mieux des critiques, au pire, des résistances qui peuvent aller jusqu'au sabotage. Ah, les choses ne vont pas si bien. On peut dire que M. de Lally est en train de s'enfoncer dans le guépier des Indes. Deuxième mouvement de la très indienne symphonie de Ravi Shankar par Ravi et Anushka Shankar qui sont au sitar avec l'orchestre philharmonique de Londres sous la direction de David Murphy. L'Ali père, puisque nous en sommes toujours à l'histoire du père, pendant qu'il est là-bas aux Indes, envoyé par Versailles, va accumuler les erreurs, disons-le. Il faut dire aussi qu'on ne lui a peut-être pas donné tous les moyens de ses ambitions. À l'ère de son prédécesseur, le fameux Dupleix, on a beaucoup abusé en Inde. Il faut vous dire que Dupleix avait déplu à la cour de Versailles en jouant les nababs aux frais du roi Louis XV. Il rêvait de former Dupleix une grande puissance française en Inde et pour cela, il voulait faire des conquêtes, il tissait des liens avec les chefs indiens. L'Ali va s'employer à liquider ce très long travail. Il fait revenir à ses côtés un des hommes forts de Dupleix, Charles de Bussy, qui tenait tout le Deccan, une région absolument stratégique. Et ça, c'est une grave erreur, parce que en se retirant, eh bien, on attire tout simplement les Anglais. Et les Anglais vont enchaîner les succès dans le Deccan et ailleurs. De plus, l'Ali, disons-le, rudoie ceux qui connaissent le terrain et qui pourraient l'aider. Il se met à dos à peu près tout le monde. Il s'entête à vouloir prendre Madras, notamment, alors que les conditions ne le permettent pas. Bref, tout ça va le conduire d'échec en échec. Il faut dire qu'il manque aussi de moyens, notre pauvre Lally Tollendal, puisque Versailles